Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors je ne le présente plus, il est à mes côtés tous les jours. J'en suis très heureuse, bien sûr, j'avais l'air un peu dégoûtée, non?
Oui, ça, un ouais. peu triste tout
non,
net.
Non,
oui.
Je suis ravie, il est tous les jours à côté
voilà,
de moi dans ce
c'est
studio.
Mieux.
C'est le docteur Jimmy Mohamed, bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Il ne manque plus que les confettis,
ouais,
les
ouais,
stripteaseuses.
Sûrement, on va pas en faire trop. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à notre intestin, ou plutôt à nos bactéries intestinales et à leur fonction. Vous savez, ce fameux microbiote dont on parle tant, eh bien notre invité vient de lui consacrer un livre. Son titre, c'est Stress, hypersensibilité, dépression. Et si la solution venait de nos bactéries chez Flammarion, alors nous aurons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau le professeur Gabriel Perlmutter. Il est également chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. Nous ferons un point sur l'IVG, alors un geste médical que certaines femmes peuvent être amenées à subir dans leur vie. Alors, pas question de rentrer aujourd'hui dans des questions politiques, sur l'allongement ou pas de ce délai, simplement de faire un point sur les différences entre IVG médicamenteuse et IVG chirurgicale. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de l'alcool quand sa consommation devient problématique et perturbe aussi la sexualité dans le couple.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par la question de Cécile qui a 26 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai les dents de sagesse qui me font très mal. Mon médecin m'a prescrit des antibiotiques. Pensez-vous que ça va passer? Parce que j'ai vraiment très peur de me faire opérer. Merci, bon après-midi.
Alors quand on a très peur, en général on demande au docteur Jimmy Mohamed, mais aujourd'hui non. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas vous poser la question à vous,
très
parce
bien.
Que finalement vous ne me rassurez pas trop en ce moment. Alors du coup on a interrogé le professeur Vianney Descroix, chef du service de chirurgie dentaire à la Pitié-Salpêtrière à Paris. On l'écoute tout de suite.
Il y a beaucoup de moyens pour lutter contre cette anxiété, cette peur du soin et de la chirurgie. La première, c'est que le chirurgien dentiste accepte cette anxiété-là parce qu'elle est logique, elle est normale. La peur, c'est une émotion naturelle et il faut savoir l'accepter comme elle se présente. Après, il faut aussi pouvoir se dire qu'on peut être rassuré par le fait qu'aujourd'hui, les chirurgiens dentistes utilisent des méthodes d'anesthésie qui rend l'intervention complètement indolore et on ne doit rien ressentir de douloureux quand on se fait opérer. Et puis, il y a aussi ces méthodes non pharmacologiques, comme l'hypnose, qu'on peut utiliser pendant une intervention, notamment avec les dents de sagesse, avec un praticien qui sait pratiquer l'hypnose médicale. Cette hypnose médicale, elle va nous permettre en fait, de se dissocier complètement de l'intervention. Et puis, d'une part, d'être soulagé en termes d'anxiété, mais aussi d'être soulagé en termes de douleur. Lorsqu'on est hypnotisé, non seulement on ne voit pas le temps passer, on ne ressent plus les émotions désagréables, et en plus de ça, on peut avoir un effet antalgique directement provoqué par le processus hypnotique.
Et bien voilà la réponse du professeur Descroix au micro de Benjamin Lévesque. Alors on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Patricia. Elle est pour vous, Jimmy. Cette question, on l'écoute bien avec attention.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie. J'ai eu la Covid au mois de mars et je suis maintenant en cas contact. Mon employeur me demande que je reste à la maison. Mais est-ce que c'est nécessaire ?
Jimmy, alors c'est une bonne question. Les victimes de la première vague s'interrogent beaucoup en ce moment. Sont-ils, oui ou non, immunisés? Puisque c'est ça finalement le fond de la question. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces patients?
Alors tout d'abord, si jamais vous avez fait une infection plutôt sévère, plutôt grave à l'hôpital, vous avez développé des anticorps qui devraient vous protéger. La question c'est, on ne sait pas combien de temps. Des cas dans le monde ont été décrits de réinfection et à titre personnel, j'ai vu des patients avoir le Covid en mars, avoir une sérologie positive. Preuve qu'ils sont protégés. Et puis cette sérologie est devenue négative. Au
comme
si
les anticorps avaient disparu. Hein, c'est
exactement.
Ça.
Et certains ont développé une nouvelle forme en septembre. Ce qui veut donc dire que même si vous êtes immunisé, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et puis certains ont développé une forme de la maladie plutôt légère, avec juste la perte du goût et de l'odorat.
On se dit la deuxième fois quand même, ça sera moins grave.
Et oui, mais certains n'ont pas eu de sérologie positive. Ouais. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes protégé. La seule question, c'est combien de temps ça dure. Et puis derrière, est-ce qu'on pourra avoir un vaccin essentiellement pour nous sortir un peu cette galère?
Oui, si cette maladie n'est pas immunisante complètement, ça serait effectivement embêtant. Des cas de deuxième infection, justement, Jimmy, vous l'avez dit un petit peu, on commence à en voir. Mais ça veut dire que si jamais on n'est vraiment pas immunisé très longtemps, on n'en finira jamais avec ce virus.
Alors tout d'abord, il faut qu'on fasse attention avec ce qu'on a misé pour certains pays sur l'immunité collective. on pensait que c'était une bonne chose, en tout cas certains l'ont pensé.
La
qu'il
Suède,
fallait
hein, par exemple.
Laisser, ouais. Exactement, c'est une très mauvaise idée de laisser circuler le virus, étant donné qu'on ne connaît pas les conséquences du virus sur le long terme. Et l'OMS avait dit qu'il n'est pas éthique de laisser circuler un virus pour lequel on ne sait absolument pas si derrière, dans 10-15 ans, on se rend compte qu'il y a des maladies neurodégénératives à cause du virus,
ou des
on aura l'air malin.
Pulmonaires à très long terme, on connaît très peu de choses encore.
Donc le salut viendra éventuellement d'un vaccin, même si pour l'instant, on ne peut pas l'espérer avant 2021, si tout se passe bien dans le meilleur des cas.
Jimmy, bon, c'est quoi la bonne marche à suivre alors pour répondre quand même à Patricia pour ceux qui l'ont déjà eu, moi ça m'intéresse, hein, c'était il y a 12 jours. Est-ce que du coup, si c'est récent, on doit quand même s'isoler? Est-ce que j'ai des chances là de le rattraper dans les jours qui viennent, par
alors,
exemple?
D'abord, il faut avoir fait une sérologie. Si votre sérologie est positive récemment, qui montre que vous avez des anticorps,
j'en sais rien.
Eh ben, il va falloir la faire dans 15 jours. Eh bien, à ce moment-là, si elle est positive, vous ne devez pas la réattraper. Vous ne faites pas en principe partie des cas contacts. Mais attention, on s'est beaucoup trompé. On a dit des choses qui étaient vraies un jour et puis fausses l'autre. Donc, dans ces cas-là, c'est au cas par cas. Je pense qu'il faut quand même demander dans ces cas-là à votre médecin de savoir est-ce que moi, je dois m'isoler, est-ce que je dois faire un test, puisque pour certains, eh bien, ils ne seront pas immunisés, peut-être risquent de développer une deuxième fois la maladie.
Bon, quelle que soit la question, on se tourne vers son médecin traitant. En général, il doit avoir un éclairage, c'est certain. Merci Jimmy. Alors si vous aussi, comme Patricia qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Gabriel Perlmutter. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que vous êtes également l'auteur du livre « Et si la solution venait de nos bactéries ?» qui vient de sortir donc chez Flammarion. Alors, professeur Perlmutter, vous écrivez en introduction de votre livre que notre corps contient plus de bactéries que de cellules. Combien y a-t-il de bactéries? À quel point on en a beaucoup, justement?
Alors, rebonjour Mélanie. En fait, c'est effectivement, il faut nous considérer, ce qu'on a, je vais dire un gros mot, comme un holobion. On n'est pas juste nous. On est un être fait de nos 100 000 milliards de bactéries dans notre tube digestif. Si vous les regroupez ensemble, ça va faire 1,5 kg.
Ah oui, quand même.
Et ces bactéries vivent avec nous. Et donc, ce qu'on connaît sur les bactéries, c'est qu'elles vont agir sur notre organisme. Et ce qu'on connaît moins, et ce qui est une grande nouveauté, c'est qu'elles vont agir sur notre cerveau, sur notre comportement. Et donc, qu'on sort de la théorie où le cerveau contrôle tout, ce qu'on appelait le brainocentrisme, et que notre ventre, nos bactéries vont aussi contrôler avec le cerveau notre comportement. Et il faut bien comprendre, en cette période difficile Covid, que ce n'est pas que nous qui sommes faits de bactéries, c'est tout notre environnement, toute la Terre aussi, où les êtres vivants les plus nombreux sur la planète, ce sont nos bactéries, les archées, les virus, si tant est qu'un virus est vivant, et avec les modifications qu'on entraîne de notre planète, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, il va y avoir de nouvelles bactéries qui vont apparaître, de nouveaux virus qui vont apparaître. Et en fait, on vit dans tout un ensemble. Et il faut bien comprendre qu'on est nous, et on est nous à l'intérieur de nos bactéries, on est aussi tout notre environnement.
Le microbiote, ça reste quelque chose d'assez obscur pour la plupart des Français. Souvent, on associe ça à la flore digestive, tout au mieux, et on pense que ça se limite à la digestion. Or, en fait, il y a plein d'autres fonctions dont lesquelles on peut se servir justement avec ce microbiote.
Bonjour Jimmy. Donc effectivement, et c'est ce qu'on apprend nous au début de nos études de médecine, qu'on a appris ensemble, effectivement, le tube digestif, les bactéries, la flore qu'on appelait la flore, et maintenant on donne un gros mot, le microbiote, sert à digérer. Mais ces bactéries ont plein d'autres rôles. Ces bactéries vont avoir un rôle majeur dans notre immunité. Ces bactéries vont jouer un rôle sur la porosité, la perméabilité de notre intestin, sur notre mucus, sur les modifications de la bile qui va passer dans tout l'organisme, sur la fabrication de ce qu'on appelle des petits métabolites qui vont aller dans la circulation, aller dans tout l'organisme, vont modifier les neurones, vont modifier notre cerveau. Et donc ces petits êtres-là, quand on les met tous ensemble, sont extrêmement puissants et vont faire, si elles vont bien, elles vont faire que nous on va bien. Si elles vont pas bien, ben elles vont nous rendre malades.
Professeur Perlmutter, ces bactéries dont vous parlez, elles sont plutôt nos amies. On vit en symbiose avec elles, on l'a bien compris avec ce que vous venez de nous expliquer. Mais parfois, il y a dysbiose. Ça veut dire quoi, la dysbiose?
Alors oui, nos bactéries sont nos amies, elles nous permettent d'être en bonne santé. Et puis parfois, il y a un tout petit dérèglement, vous voyez. C'est quand tout un engrenage, tout va bien, juste le petit grain de sable fait, il y a une bactérie qui va se mettre à déconner. Et donc, elle va faire déconner celles qui sont à côté. Et il va y avoir ce qu'on appelle un déséquilibre bactérien, ce qu'on appelle en gros mot une dysbiose. Et cette dysbiose peut entraîner un retentissement sur tout notre organisme. Donc on le sait sur l'obésité, le diabète, mais ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on sait que ça va agir sur notre comportement, ça peut nous déprimer, ça peut nous rendre anxieux. Chez certaines personnes, ça peut nous rendre hypersensibles. Et puis peut-être les personnes qui manquent de compassion, nos hommes politiques, ils ont aussi une dysbiose pour manquer de compassion.
Ça explique beaucoup de choses, effectivement, Jimmy.
Vous dites que ça peut conduire à la dépression. Et je crois que justement, quand on donne des hamburgers à des souris, elles dépriment. Ça veut dire que l'alimentation a un impact sur le cerveau.
Absolument. Mais c'est, ce qui est incroyable, c'est que, alors effectivement, quand vous donnez une malbouffe à des souris, vous leur donnez des hamburgers pendant plusieurs jours, vous allez modifier leurs bactéries et vous allez modifier le comportement de la souris, un comportement qui se rapproche de la dépression. Elle va moins se déplacer, elle va être moins, un peu moins agressive.
Moi, j'ai
l'impression
que les burgers me rendent heureuse pourtant, mais...
À court terme, oui. Mais à long terme, peut-être pas. C'est
d'accord.
Toute la différence entre le court terme et le long terme. Et puis, ce qui est encore plus incroyable, quand vous prenez une personne déprimée, elle a des bactéries différentes d'une personne qui n'est pas déprimée. Vous prenez son microbiote, ses bactéries, vous la mettez à des souris, eh bien, vous allez entraîner une dépression chez la souris. Et ça vous montre donc que l'alimentation, par l'intermédiaire de modifications de nos bactéries, va entraîner une dépression. Et donc, tout l'espoir, c'est qu'en jouant, en ciblant ces bactéries-là, on arrive à améliorer notre comportement avec des nouvelles solutions de traitement.
Là, on a parlé un tout petit peu de l'alimentation, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il n'y a pas que ce qu'on mange finalement qui peut perturber l'équilibre de ces bactéries, ça peut être aussi des médicaments ou des maladies qu'on a, je crois.
Absolument. Alors, ce qui est le plus perturbant pour nos bactéries, c'est tous les jours, c'est l'alimentation. Mais vous avez d'autres modes de perturbation. Vous allez avoir, par exemple, certains médicaments. Mm-hmm. Alors, tout le monde pense aux antibiotiques, mais bien presque plus de 70% de nos médicaments vont modifier nos bactéries digestives. Et puis, vous pouvez avoir aussi l'activité physique qui va les améliorer. Vous pouvez aussi probablement avoir certains polluants qui vont les modifier.
Si je bois trop d'alcool ou si je fume, par exemple, ça a un impact.
Si vous prenez trop d'alcool, vous allez avoir un appauvrissement de vos bactéries. Si vous fumez trop, ça va plutôt être les bactéries pulmonaires qui vont être modifiées. Mais tout ce qu'on fait va avoir une conséquence sur elles. Et si vous ne prenez pas soin d'elles, elles ne prendront pas soin de vous en retour.
Du coup, parfois, on propose des probiotiques pour équilibrer la flore digestive. Mais du coup, c'est quoi un probiotique? Parce qu'on a l'impression que parfois, que c'est un peu marketing et que la définition n'est pas très claire.
Alors, la définition est très claire. Et là où c'est marketing, c'est que la définition est tellement compliquée, en fait, c'est que quand vous regardez une boîte de probiotiques, c'est jamais écrit dessus probiotique, c'est écrit ferment lactique. Mais un probiotique, c'est quoi? C'est un être vivant, bactéries ou levures, qui ingéré en quantité suffisante chez une personne en bonne santé va avoir un effet bénéfique sur sa santé. Donc, chez une personne en bonne santé, vous améliorez la santé. Et donc, le raccourci est fait qu'un probiotique, si vous n'êtes pas bien, va améliorer votre santé. C'est très clair sur des cultures de cellules que vous allez les améliorer. Quand vous avez une souris qui est déprimée, vous allez lui donner des probiotiques, vous la ferez aller mieux. Et quand vous prenez une personne, le niveau de preuve, c'est beaucoup plus compliqué chez l'homme. Il existe aussi. Et il faut penser que ce n'est pas que nos bactéries, c'est aussi tout ce que fabriquent nos bactéries qui va nous améliorer.
Professeur Perlmutter, on va poursuivre cet entretien. On reviendra sur les probiotiques un peu plus tard. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Gabriel Perlmutter. Vous êtes chef du service hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et l'auteur du livre « Et si la solution venait de nos bactéries » publié chez Flammarion Versilio. Alors justement, on va parler à présent des maladies du microbiote. Vous citez dans votre livre de très nombreuses études menées dans le monde qui montrent ce lien entre notre flore intestinale et notre état général. Certaines études, on va faire un petit crochet sur l'obésité par exemple, montrent qu'il y a vraiment un lien entre ce qui se passe dans l'intestin avec ces bactéries et le fait de souffrir d'obésité.
Absolument. Alors, en fait, quand vous avez un surpoids, une obésité, vous allez avoir un appauvrissement de vos bactéries en termes quantitatifs et surtout qualitatifs. Vous allez avoir moins d'espèces, moins de diversité bactérienne à cause de l'alimentation. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on raconte dans ce livre, on se focalise sur le cerveau, c'est que cet appauvrissement bactérien n'a pas des conséquences simplement sur votre métabolisme, sur la prise de poids, mais aussi sur votre humeur. Et peut entraîner parfois une tristesse de l'humeur, parfois une véritable dépression, et c'est probablement lié au moins en partie à cet appauvrissement de la diversité bactérienne. Alors, comment ça fonctionne ? Vous mangez déséquilibré, donc vous n'apportez pas les bonnes nourritures à vos bactéries, et du coup, certaines vont disparaître. Et l'interaction que vont faire les bactéries les unes avec les autres et avec votre propre organisme va être perturbée. Vous allez avoir un appauvrissement de l'imperméabilité de votre intestin qui va devenir poreux. Vous allez avoir des modifications de l'immunité. Vous allez avoir des produits que fabriquent vos bactéries qui vont être différents. Et ça va aboutir, d'un point de vue somatique, à, par exemple, un diabète, à un moins bon métabolisme du cholestérol. Et d'un point de vue psychologique, soit une addiction à l'alimentation, soit à une tristesse de l'humeur, une dépression, ce qui montre que ces bactéries vont avoir un rôle global, non seulement sur votre organisme qu'on appelle le somatique, mais également sur le psychique, sur le psychologique.
Est-ce qu'il y aurait d'autres pathologies ou d'autres choses un peu plus étonnantes, comme par exemple, je sais pas, l'addiction, je sais pas, à la cocaïne? Est-ce que le microbiote pourrait avoir un impact sur le fait qu'on soit ou pas addict à certaines substances comme la cocaïne?
Alors, c'est très important ce que vous racontez, Jimmy, parce que le microbiote, il est dans le ventre, il est au niveau de notre centre de gravité, il va agir forcément partout. Ce qu'on sait sur les addictions, par exemple, et c'est très important parce que ça peut apporter des solutions, des nouvelles solutions, par exemple que les personnes qui ont une addiction à l'alcool vont avoir une porosité de l'intestin augmentée et que certaines toxines pourront passer qui vont rendre les patients plus... leur donner un craving plus important. Le craving, c'est l'envie irrépressible d'aller consommer une substance avec après un sentiment de culpabilité derrière. Donc, il est bien connu pour l'alcool, il est probablement vrai pour le sucre également et pour d'autres substances. Pour la cocaïne, ce qui a été montré, c'est qu'en fonction de vos bactéries, vous allez être plus ou moins addict à la cocaïne. Et ce qui est très intéressant, c'est que on pensait que le foie, ça fabriquait la bile, ça servait à digérer, mais que vos bactéries vont modifier la composition de la bile, et c'est ce qu'on raconte, qui est que du coup, la bile qui va passer dans le sang va se fixer sur des récepteurs différents au niveau du cerveau, et c'est bien montré chez des rats que quand vous opérez les rats au niveau de leur vésicule, vous changez leur microbiote et leur bile, ils vont être moins addicts à la cocaïne, et la cocaïne aura moins d'effet sur eux. Et c'est juste incroyable de penser que nos petites bactéries vont agir sur notre comportement, et du coup, aller dire à quelqu'un « arrête la cocaïne, arrête de boire, arrête de manger », c'est juste pas comprendre le mécanisme de la maladie, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, il faut l'accompagner, c'est tout un processus non seulement psychologique, mais également somatique, pour pouvoir sortir d'une addiction.
Vous disiez tout à l'heure que donc, ce qui causait les principaux, on va dire, dysfonctionnements du microbiote, donc de cette organisation de nos bactéries et de leur richesse ou non, c'est vraiment l'alimentation, mais donc surtout la malbouffe, j'imagine. On sait qu'on a vraiment un microbiote bien plus abîmé, bien plus pauvre que nos ancêtres qui mangeaient moins de fast-food, de gâteaux industrialisés, etc.
Alors ça, on le sait clairement quand on compare par exemple une alimentation plus traditionnelle qu'on peut voir en Afrique, qui est beaucoup plus riche en fibres, moins riche en protéines et surtout moins riche en sucre, en hydrates de carbone. Et ça, je voudrais dire pour les auditeurs que le sucre, et j'ai beaucoup de patients comme ça, c'est pas le petit morceau de sucre que vous mettez dans votre café qui fait 5 malheureux grammes ou 2,5 grammes, c'est tous les féculents, les céréales qui sont transformés, qui sont extrêmement riches en sucre, qui peuvent perturber notre organisme. Et dans les générations antérieures, on n'en mangeait pas tant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, on a un microbiote modifié. Il faut savoir que ça se joue très tôt et donc que vous avez effectivement la malbouffe qui va modifier votre microbiote, mais que ça peut démarrer très tôt, dès la naissance. On le voit par exemple à des souris, avec des souris. Si la souris a un mauvais développement de son microbiote, elle va être susceptible à développer de nombreuses maladies, elle va avoir une immunité qui est différente. Et ça va très loin, parce que quand par exemple vous prenez une souris à la naissance, vous la séparez de ses parents, et ça je vois beaucoup chez mes patients qui ne sont pas des souris, mais on leur fait la même chose, on les sépare de leurs parents, eh bien, ils vont avoir une dysbiose et ils vont avoir mal au ventre, et ça va les poursuivre toute leur vie.
C'est passionnant.
C'est incroyable.
Et est-ce que la quantité joue aussi? Parce qu'on parle de la qualité, le fait de trop manger, est-ce que c'est aussi mauvais?
Si je mange beaucoup, beaucoup de carottes, beaucoup, beaucoup de légumes, est-ce que ça peut faire du mal?
Alors, effectivement, il faut comprendre que la biologie, c'est une balance, c'est un équilibre. C'est pas ou tout bien ou tout mal. Quand vous faites tout en excès ou trop, imagine, vous mangez trop de fibres, eh ben, vous aurez mal au ventre, vous allez trop fermenter, vous allez gonfler, vous ne serez pas bien. vous n'en mangez pas assez, vous allez avoir un appauvrissement bactérien, vous ne serez pas bien. Et donc, c'est tout l'équilibre qui est compliqué parce qu'on aime bien quand tout est tout blanc ou tout est tout noir. C'est tout cet équilibre subtil dont ont besoin nos bactéries et dont nous, on a besoin pour être en bonne santé.
Professeur Perlmutter, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Gabriel Perlmutter. Vous venez nous présenter votre livre aujourd'hui qui vient de sortir chez Flammarion. Son titre, c'est « Et si la solution venait de nos bactéries ?» Alors justement, professeur Perlmutter, on va parler à présent des solutions finalement pour construire ou reconstruire, si c'est possible, améliorer en tout cas notre microbiote. D'abord, il faut dire que beaucoup de choses, vous l'avez déjà un petit peu amorcé tout à l'heure, se passent finalement très tôt dans notre vie. Vous disiez le microbiote, donc vous parliez des bébés, mais même déjà pendant la grossesse, ça se forme, hein, c'est ça ? Dans le ventre de notre maman.
Absolument. Et donc, c'est très important pour les PA, c'est ce qu'on raconte dans le livre, de construire dès la naissance un bon microbiote. Alors, comment ça se construit un bon microbiote ? Ça se construit déjà pendant la grossesse, puisque la maman va transmettre ses bactéries à son enfant. Et donc, si la maman va pas bien au dernier trimestre, c'est ces bactéries du dernier trimestre qui seront transmises à l'enfant. Si elle prend des médicaments de façon intempestive, si elle s'alimente mal, elle risque de transmettre un déséquilibre bactérien à son enfant. Ensuite, si l'enfant va naître par voie naturelle ou par césarienne, il ne va pas acquérir les bonnes bactéries. On sait par exemple aujourd'hui qu'il y a des études qui montrent que si on badigeonne l'enfant, soit avec du liquide vaginal de la maman, soit on fait une greffe fécale à l'enfant de la maman, pour éviter, s'il n'est pas césarienne, pour éviter qu'il ait un déséquilibre bactérien, une dysbiose, eh bien, on améliore...
Parce que c'est très bien d'être exposé à la flore vaginale de la maman
absolument.
En sortant. Hein,
voilà. C'est beaucoup mieux que la flore cutanée quand on naît par césarienne. Déjà, on améliore l'enfant. Et puis, au moment de... Ça a été bien montré chez des souris. Et si vous inhibez une réaction immunitaire extrêmement forte au moment de l'arrêt de l'allaitement par rapport à l'alimentation, la diversification alimentaire par des antibiotiques, vous allez générer une susceptibilité à faire de nombreuses maladies. Et donc, c'est très important dans les premiers mois de vie de l'enfant, particulièrement au moment du sevrage, de faire très attention à ne pas pousser son médecin, si l'enfant a de la fièvre, à qu'il prescrive des antibiotiques. Parce que le médecin prescrit des antibiotiques, mais quand une maman avec son enfant va voir son médecin et qu'il ne prescrit pas d'antibiotiques alors qu'il y a une fièvre élevée, tout le monde est dans un cercle vicieux infernal.
Donc, on limite au maximum la consommation d'antibiotiques quand c'est possible.
Absolument.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour conserver un bon microbiote tout au long de sa vie ?
Alors ensuite, pour conserver le bon microbiote dans sa vie, je dirais que c'est une alimentation... Tout ce qui est vert va être bon pour le microbiote. Donc vert, c'est brocoli, qui est un aliment magique avec le tryptophane qui va jouer un rôle, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, sur le cerveau également.
Moi j'adore le brocoli, ça tombe bien, c'est mon légume préféré.
Voilà, après vous pouvez prendre haricots verts, vous pouvez prendre épinards, courgettes, que sais-je.
Donc les verts, les oranges par exemple, c'est moins bien, les carottes et tout ça. Ouais.
C'est bien, mais c'est moins bon pour vos bactéries. D'accord. Parce que la bouffe est moins bonne pour nos propres bactéries.
D'accord.
Et puis surtout, vous prenez pas trop d'aliments, le moins d'aliments transformés possible. Et ensuite, je dirais une alimentation équilibrée, pas de jus de fruits non plus, mieux vaut prendre les fruits avec la pulpe des fruits et pas en excès, évidemment. Quant aux boissons, pas de jus de fruits, de l'alcool, le moins possible, pour aller bien, et je ne dis pas zéro. Et si vous avez ça tout au long de votre vie, vous allez construire de bonnes bactéries. Alors, il faut faire très attention, parce que j'ai beaucoup de patients qui ont mal au ventre. Si d'un seul coup, vous changez ça, vous allez trop fermenter au niveau du ventre et vous serez paradoxalement encore moins bien.
Donc, on y va tranquillement.
Et donc, on y va tranquillement avec son médecin.
D'accord.
On en parlait un petit peu tout à l'heure, les probiotiques, est-ce qu'on peut essayer de rééquilibrer les choses, justement, en en prenant, et si oui, lesquels ?
Alors, les probiotiques, ils vont être intéressants si vous avez, soit en hiver, une fatigue, un coup de blues, et c'est ce qu'on montre, où on montre qu'on peut calmer l'anxiété.
Les petits yaourts qu'on voit dans les supermarchés, parce qu'on a l'impression qu'il y a des probiotiques partout, on ne parle pas de ça, là, on est d'accord, ce n'est pas les petits yaourts à boire, si, ça suffit.
Alors, les yaourts, par définition, quand il y a écrit yaourt dessus, il y a des bactéries dedans,
bon,
parce que
bien.
Sinon, ce n'est pas un yaourt, c'est un lait fermenté.
Donc, c'est un probiotique, alors ?
On n'a pas le droit de dire probiotiques. S'il y a des bactéries dedans.
Bon,
mais
d'accord.
Quand vous achetez une boîte, je dirais que oui, je pense que ce sont des probiotiques.
D'accord.
Absolument.
Ça, c'est très bien.
Après, quand vous prenez un yaourt, il va y avoir du lactose dedans, et puis certaines personnes ne vont pas tolérer le lactose non plus. Et donc, quand vous avez, par exemple, et c'est comme ça que je traite mes patients, un petit coup de blues, une fatigue, je préfère donner des probiotiques plutôt que des anxiolytiques. Quand vous avez une véritable dépression, eh bien, peut-être, ce sera intéressant, en plus des traitements antidépresseurs traditionnels, de cibler le microbiote intestinal, soit en donnant des bactéries, des probiotiques, soit en donnant peut-être des métabolites de vos bactéries. Mmh. Et je pense qu'il faut commencer à réfléchir comme ça pour soigner les personnes de façon plus globale que seulement le cerveau ou seulement le tube digestif.
Ce que vous donnez, vous, à vos patients, c'est des choses qui sont sur ordonnance ou est-ce qu'on trouve en pharmacie? Parce que des probiotiques, on en voit partout, même comme ça. Enfin, comment on choisit les bons, nous, patients? Il vaut mieux demander au médecin une ordonnance ou est-ce qu'on va voir avec le pharmacien et puis ça suffit?
Alors, c'est compliqué parce que chaque souche bactérienne, chaque espèce bactérienne aura des propriétés différentes. Et on ne va pas citer de marque ici, ce n'est pas mon rôle. Après, vous avez certains, les lactobacillus rhamnosus, qui vont plutôt agir sur le niveau sur le cerveau, vous voyez, vous avez d'autres bactéries qui vont plus agir sur la diarrhée, vous avez des bactéries qui vont agir sur l'appétit, et vous pouvez espérer diminuer l'appétit avec certaines bactéries, vous en avez d'autres qui pourront peut-être jouer sur le diabète.
C'est là vous donnerez le nom avant de partir quand même. Hein, parce que
voilà, donc il y a beaucoup de bactéries qui peuvent jouer.
Preuve qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi, on a tendance à vouloir juste prendre des probiotiques pour prendre des probiotiques, mais si jamais on fait ce que vous dites, on fait attention, on essaie de surveiller l'alimentation, de limiter les médicaments inutiles, au bout de combien de temps on peut espérer rétablir ou en tout cas corriger les choses au niveau de notre microbiote? Ça prend du temps.
C'est Jimmy, gros mangeur de pizza, qui veut savoir comment il peut réparer les choses.
Si j'arrête kebab et pizza, au bout de combien de temps je pourrais me sentir un peu mieux?
Alors ça va, quand on change l'alimentation, par exemple chez des personnes qui fermentent trop et on leur donne un régime, qui sont stressées, qui sont hypersensibles, qui viennent me voir, qui ballonnent au niveau du ventre, et on leur donne un régime qui va supprimer les fermentations trop importantes. On enlève le lactose, on enlève le gluten. Franchement, en quelques jours, les personnes sont améliorées. On les accompagne. Et puis après, c'est vrai qu'on va supprimer certains bons aliments qui sont riches en inuline, comme l'ail, comme l'oignon, comme les échalotes. Et donc, on peut compenser avec certains compléments, certains acides gras chaîne courte, par exemple, pour compenser le fait qu'on supprime certains aliments qui fermentent. Donc, voilà, c'est une subtile association d'une alimentation et de certaines bactéries ou métabolites bactériens.
Bon, avec tout ce qu'on vient d'expliquer à nos auditeurs aujourd'hui, je suis sûre qu'il y en a plein qui se demandent, mais co-auteurs, comment je fais pour savoir dans quel état est mon microbiote? Il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent d'analyser votre microbiote avec un échantillon de sel, mais ça, vous dites, attention, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose de faire ça. Donc comment on sait si on a un bon microbiote du coup?
Alors déjà, faut faire attention. Donc, si on se fonde sur les recommandations de la Société nationale française de gastroentérologie, dont je fais partie, aujourd'hui, il n'y a pas d'indication à vous faire une analyse de microbiote. Pourquoi il n'y a pas d'indication? Parce qu'on ne va pas changer votre traitement aujourd'hui. Simple, moi, j'ai trop de patients qui viennent me voir en consultation, qui me donnent leurs examens, sans même que je les connaisse, sans même discuter avec eux. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en médecine. Déjà, en discutant avec la personne, en discutant de son alimentation, on peut appréhender comment va être son microbiote. Et ensuite, peut-être que dans les années qui vont venir, je vous tiendrai un discours différent parce qu'on aura certaines choses qui seront analysées au niveau des bactéries digestives et puis on pourra peut-être avoir un probiotique plus ou moins ciblé. Et puis peut-être que certaines personnes, bien que ce ne soit pas recommandé par la Société nationale française de gastro-entérologie, veulent se faire s'alléger de 200 euros, faire une analyse de microbiote, changer leur alimentation et voir un mois après comment ça va. Mais ça, c'est juste une curiosité intellectuelle individuelle. C'est plus aux médecins de proposer ça.
Merci beaucoup, professeur Perlmutter, d'être venu sur notre plateau cet après-midi, donc nous éclairer sur le rôle de nos bactéries intestinales, de notre microbiote, sur notre santé globale. Alors pour ceux, évidemment, qui voudraient en savoir plus, je ne peux que rappeler le titre de votre livre. Et si la solution venait de nos bactéries, chez Flammarion. Merci encore, professeur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur l'IVG, d'un point de vue purement médicamenteux, enfin médical bien sûr. Quelles sont les différences précises entre IVG médicamenteuse et IVG chirurgicale? Comment se déroulent l'une et l'autre des techniques? Est-ce douloureux physiquement? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été testé. Vos connaissances sur le sujet, on écoute son micro-trottoir.
Une IVG, donc, c'est une interruption volontaire de grossesse. Donc, il y a soit par médicament, donc du coup, on fait avaler un médicament à la femme enceinte.
Une IVG, c'est quand on souhaite interrompre une grossesse.
Donc, non, on tue le fœtus de manière médicamenteuse. J'imagine qu'il s'évacue par les voies naturelles.
Il me semble que l'IVG médicamenteuse, elle intervient au début, quand on connaît la grossesse, au tout début, dans les premières semaines.
Médicaments, ça doit être des comprimés à prendre pendant une certaine période.
Chirurgical, je pense que c'est quand le délai est un peu dépassé pour le médicament.
Il me semble qu'on aspire. On aspire le fœtus.
Ah, chirurgicalement. Oh, je pense pas qu'il y ait d'ouverture. Je crois pas qu'il y ait d'ouverture.
Chirurgical, et ben du coup, il va y avoir anesthésie, etc. Qui intervient plus à la fin de ce délai de 12 semaines.
Oh non, je pense que n'importe qui peut avoir accès, en France en tout cas, peut avoir accès à l'IVG, quelle qu'elle soit.
Alors Jimmy, aujourd'hui, simplement un petit rappel technique. Comment ça se passe une IVG quand on opte d'abord? On va faire la version médicamenteuse. Je crois qu'il y a deux médicaments à prendre. Hein.
Exactement, deux médicaments qu'on vous donne. Le premier, c'est ce qu'on appelle un antiprogestatif. C'est celui qui va arrêter la grossesse et permettre de décoller l'œuf et qui va favoriser l'ouverture et le ramollissement du col de l'utérus. Et à ce stade, il est possible d'avoir quelques saignements, mais ça ne veut pas dire que la grossesse est totalement arrêtée. Un ou deux jours après, on vous donne un autre traitement qui s'appelle, c'est des prostaglandines, qui va entraîner des contractions utérines pour expulser l'œuf. Et vous avez des saignements qui vont survenir dans les 4 heures, dans 60% des cas. Et puis dans le reste des cas, donc dans 40%, ça va entraîner des saignements dans les 24 à 72 heures, avec du coup des douleurs abdominales, un peu comme s'il y avait des contractions, une forme d'accouchement en quelque sorte.
Alors ça, c'est le médicamenteux, donc on n'est pas hospitalisé, mais il faut quand même une consultation médicale au préalable. Hein.
Effectivement, une consultation obligatoire pour deux aspects importants. Le premier, médical, et le deuxième, psychologique. Dans un premier temps, le médecin ou la sage-femme qui sont habilités à pratiquer l'IVG vont vous poser des questions, récupérer les examens pour avoir l'échographie de datation, savoir où est-ce que vous en êtes, à quel terme, puisque en fonction du terme, on décidera d'une IVG médicamenteuse ou chirurgicale. Et puis, il récupère aussi les examens sanguins, la prise de sang, notamment le groupe sanguin, parce que qui dit IVG dit perte de sang et possiblement transfusion si jamais il y avait un problème. Donc on vous pose des questions. Et puis, dans le cadre psychologique, de savoir, est-ce que vous êtes sûr de cette décision? Est-ce que c'était un projet à deux? Qu'est-ce qui fait que...
Oui, donc c'est important de contextualiser.
Donc c'est un vrai projet qu'il faut accepter de suivre et pour lequel les médecins et les sages-femmes sont formés.
Alors, on va passer à l'autre technique d'IVG, le chirurgical ou l'instrumental. Là, ça se passe comment?
Alors, dans ces cas-là, vous subissez une intervention chirurgicale, souvent sous anesthésie générale. C'est rare sous anesthésie locale, ça ne dure que quelques minutes. Et avant de procéder à ce qu'on appelle une aspiration, le médecin va dilater le col de l'utérus. Et parfois, on donne même un traitement un petit peu avant médicamenteux pour préparer ce col. Cette intervention est préférée entre la 8e et 12e semaine. Au-delà, avant, on propose une IVG médicamenteuse. Dans tous les cas, une consultation est obligatoire entre le 14e jour et le 21e jour qui suit l'acte pour vérifier que la grossesse s'est bien arrêtée. L'IVG médicamenteuse est efficace à 95%, ça veut dire qu'il y a quand même un taux d'échec, raison pour laquelle vous devez avoir un suivi, puisque lorsque vous avez terminé, lorsque c'est réglé, eh bien, il faut savoir est-ce que vous voulez une contraception. Parce que vous pouvez retomber enceinte si vous le souhaitez au cycle prochain ou si vous ne voulez pas. Dans ces cas-là, on vous propose une contraception.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. On vous retrouve tout de suite dans Sans Rendez-vous avec Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite. Catherine Blanc pour sa chronique sexo tous les jours à la fin de cette émission. Alors Catherine, aujourd'hui, on a une question de Martine que Jimmy va nous lire tout de suite. Je sais que vous adorez ça.
Je suis un grand lecteur.
Voilà,
avec
on y
mon
va.
Mari, nous traversons des hauts et des bas. En ce moment, tout ne se passe pas très bien avec lui. J'ai remarqué qu'il me faisait l'amour uniquement lorsqu'il a bu. Comment expliquer cela? Bon, je pense que même moi, je serais capable de dire que s'il a besoin de boire de l'alcool pour avoir des rapports sexuels, ça reste problématique.
C'est extrêmement problématique. Ça veut dire qu'il ne va pas bien. Encore une fois, nous ne parlons pas d'abord de la sexualité. Si tout d'un coup, il y a une tension entre deux personnes et que le seul moyen de s'approcher l'un de l'autre, c'est par le biais d'une prise d'alcool, donc essayer de trouver à la fois une sorte d'apaisement ou au contraire,
désinhibition,
etc. C'est qu'il y a une problématique générale d'abord dans la relation, mais surtout une problématique pour cet homme-là. C'est-à-dire que si on a besoin de boire pour être en lien avec l'autre, c'est qu'on est dans un état de déprime manifeste et de manque peut-être même de sérotonine telle que du coup on va avoir recours à des tas de choses extérieures qui va du coup entraîner une relation de couple qui va pas bien. Et comme une relation de couple va pas bien, on vit la sexualité avec de l'alcool. Comme on la vit avec de l'alcool, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation, donc il n'y a que de la technique, que de la mécanique sexuelle.
L'alcool, ce qui ça désinhibe un temps et puis au bout d'un moment ça fait pas bon ménage avec la sexualité, je crois, de toute façon.
Oui, ça fait pas du tout bon ménage avec la sexualité. Et puis surtout sa femme voit bien que qu'il n'est pas là animé de son désir pour elle, mais bien tout d'un coup porté par quelque chose pour se mettre de l'entrain et avec une sorte de perte de repère personnel. Donc on ne va que de plus en plus vers une relation qui est déficiente.
Jimmy, l'alcool, on est d'accord, ça peut causer aussi des problèmes d'érection, des problèmes de sexualité vraiment physique.
Hein, c'est souvent plutôt ça le problème, hein. C'est les conséquences négatives de l'alcool, parfois aussi de la violence, puisqu'il y a de la désinhibition, donc ça ne fait pas bon ménage. Souvent, on banalise ça avec un verre de vin, c'est sympa, ça désinhibe, mais il ne faut pas le voir de ce côté-là. Mais dans un couple, qu'il y ait des hauts et des bas, c'est normal. Peut-être mieux vaut ne pas avoir de relations sexuelles du tout que d'avoir des relations sous alcool. Elle devrait peut-être le repousser, non ?
Alors d'abord, je voudrais effectivement aller dans votre sens, hein, Jimmy. L'alcool, on a trop tendance, et notamment la jeunesse pense que l'alcool leur permettra de passer le cap de l'inhibition et de la pudeur. Mais en fait, ça ne donne pas du tout la notion de la compétence réelle. Du coup, il y a une sorte d'addiction qui se fait, sans quoi on ne se sent pas à la hauteur.
Sans alcool, ils n'y arrivent pas.
Exactement. Mmh. Et il faut savoir que non seulement ça entraîne des pertes d'érection, mais ça entraîne aussi des éjaculations ou qui ne viennent pas chez certains hommes. Du coup, ça devient un pinsomme de faire l'amour, ou au contraire, des éjaculations qui arrivent très très rapidement, ce qui donne pas non plus la mesure de la compétence
de
l'homme.
C'est pas une bonne idée de démarrer comme ça non plus.
Absolument. Alors vraiment, c'est une fausse bonne idée. Hein. Et donc, vous me disiez, pardon, Jimmy...
Mieux vaut peut-être ne pas avoir de relation sexuelle. Elle devrait peut-être le repousser. En fait, il y a des hauts et des bas. Des bas dans un couple, c'est normal.
Je crois qu'il ne faut pas vouloir absolument faire l'amour pour faire l'amour, puisque là, il y a un véritable malentendu. Et puis en plus, accepter que ça se passe sur ces conditions, c'est même méprisant d'elle-même. Je crois qu'il faut pouvoir dire que ça ne va pas en ce moment, câlinons-nous, parlons-nous, allons voir quelqu'un le cas échéant, mais on ne peut pas rester là-dessus parce que, comme vous dites, ça fait monter d'une agressivité, une dévalorisation personnelle de l'homme pour lui-même ou de la femme pour elle-même, avec un sentiment dans le mal-être masculin que la femme en est responsable, parce que c'est un cercle vicieux, il se sent mal, il boit, elle est là, elle accueille parce qu'elle essaie d'être douce, mais du coup, il y en a un qui perçoit dans son mal-être l'autre plus puissant capable de réconforter, et du coup il lui en veut de cette compétence. Donc on est dans un truc qui tourne au vinaigre.
Donc mieux vaut refuser, comme le suggère Jimmy, vaut mieux qu'elle lui dise
oui,
non.
Oui, mais en douceur, c'est-à-dire je crois que c'est pas le moment, je pense que c'est pas le sujet, là tu n'es pas dans ton état normal, faisons-le quand on est dans la disponibilité, et l'un et l'autre, parce qu'elle n'est pas un objet, pas plus qu'elle n'est un déversoir de sa souffrance ou de sa sexualité ou de son éjaculation.
Et en refusant, elle ne peut pas... aggraver encore son problème, justement. Vous dites refuser avec douceur, mais...
Je pense qu'il faut refuser avec douceur, mais il faut refuser. On ne peut pas passer notre temps, et ça, il y a trop longtemps, les femmes ne se sont pas permises de refuser sous prétexte de ne pas aggraver l'inconfort, l'insécurité ou l'agressivité masculine. Donc, je crois qu'il faut pouvoir dire non, évidemment pas de façon castratrice, mais le dire non avec bienveillance pour que, du coup, on trouve d'autres lieux pour pouvoir retrouver le chemin de la communication.
Donc, il faut qu'il se fasse aider, tout simplement.
Absolument. Non, je crois que quand on a besoin d'alcool pour rentrer dans le lien à l'autre, quels que soient les liens, aller travailler, l'amour, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas et il est urgent de s'en préoccuper.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
Je crois savoir que vous aimez les hommes bien bâtis.
Mais c'est pas forcément notre cas, mais dans l'histoire, enfin, je parle pour moi, dans l'histoire, il y a eu des hommes très bien bâtis. Ouais. Et justement, des armoires à glace, en quelque sorte, c'est leur point commun aujourd'hui. Hercule, avec ses 12 travaux. Johnny Weissmuller,
le fameux Tarzan.
Et
si vous restez avec nous, Mélanie, vous entendrez le cri de Tarzan par Stéphane Bern.
Oui, alors c'était pas forcément ce que je sais faire de mieux dans la vie.
Non, mais c'est ce que vous faites de plus drôle en tout cas.
Et vous avez choisi
Notre colosse contemporain, Teddy Riner.
Wow, merci messieurs, je vous souhaite une très bonne émission. Alors je vous donne un petit secret, vous savez, Jimmy lui aussi il est bien bâti, ben, il va vous adore. Hein. Il va vous écouter évidemment, et vous aussi qui nous écoutez, restez sur Europe 1.